Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioVallée.
Sur Erdiwa 107.5 FM et sur Radio Saint-Ferréol 94.2, également sur internet www.rdwa.fr, nouvel épisode de Biotope où nous allons parler de l'éco-volontariat en compagnie de Marielle Geoffroy, bonjour.
Bonjour.
Laure Vunet également.
Bonjour.
Et enfin Philippe Mesda, bonjour à vous.
Bonjour.
Marielle Geoffroy, vous faites partie de Volontaires pour la Nature, on en parlera après. Laure Vunet, vous travaillez à la LPO Drôme. Et enfin, Philippe Mesda, vous représentez l'ONF dans le cadre de cet entretien. Nous allons parler de l'éco-volontariat. Est-ce que d'abord, quelqu'un voudrait nous décrire qu'est-ce que c'est que ce terme un peu bizarre ?
Moi, je veux bien.
Allez, Marielle Geoffroy.
On appelle éco-volontariat toute action de terrain, a priori dans la nature, mais ça peut être aussi dans les espaces urbains, qui a pour vocation de mieux connaître la nature et de la protéger. Et donc, c'est souvent en faveur des espaces naturels et de la biodiversité.
Et le côté volontariat ?
Volontariat, en fait, c'est du bénévolat plus que du volontariat. Parce que le volontariat, ça reprend aussi un statut juridique aujourd'hui. Donc, on parle plutôt de bénévolat.
Bénévolat, donc, c'est des gens qui, dans le cadre d'associations, la plupart du temps, et qui vont fournir un travail gratuit. Hein. C'est bien de ça dont on parle. On va rester avec vous. Marielle, présenter un petit peu les institutions dans lesquelles vous êtes et leur mission et du coup qu'est-ce que vous faites en tant que bénévole.
D'accord, alors moi je suis salariée de l'association Volontaires pour la Nature qui donc met en place des chantiers et des missions d'éco-volontariat ou de bénévolat pour la nature en France et à l'étranger et là plus particulièrement en Rhône-Alpes avec des partenaires comme l'ONF ou la LPO où on met en place des chantiers spécifiques sur une problématique en particulier.
Mais quel type de chantier, soyons concrets ?
Sur l'étranger, ça peut être de participer par exemple au Pérou, aux missions de terrain des éco-gardes, donc dans leur relevé scientifique, dans la mise en place de diagnostics environnementaux ou sur des actions d'éducation à l'environnement. Ça peut être aussi en France dans des centres de soins pour la faune sauvage où donc les bénévoles vont soigner des animaux sauvages avant de les remettre en liberté. Et sur les chantiers en Rhône-Alpes, on va surtout travailler sur de la réhabilitation, de la restauration de milieux naturels, donc de la réouverture de milieux ou de la création de mares ou encore du nettoyage de rivières, voilà, ce genre de choses.
Et donc vous travaillez en lien avec d'autres institutions sur le plan local, dont l'ONF, la LPO, vous-même, l'ONF par exemple, Philippe Mesda, est-ce que vous avez comme ça, on se dit, en fait vous êtes tous salariés, tous les trois?
Oui.
Voilà, c'est ça. Donc, on va parler des bénévoles, mais avec des salariés. À l'ONF, justement, on se demande s'il y a des bénévoles. Il y en a, alors.
On intervient sur certains chantiers de réhabilitation de milieux. Et dans ce cadre-là, on peut intervenir avec des ouvriers forestiers de l'ONF. On peut intervenir avec des entreprises. Et on peut aussi, ce qui est plus récent, intervenir avec des bénévoles.
Ça, c'est parce que vous êtes propriétaire du terrain qui sera réhabilité
la plupart du temps. Nous sommes gestionnaires du terrain, oui, pour l'État ou pour des communes. On fait appel à des bénévoles pour des missions particulières. Ce sont souvent des travaux qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre et qui nécessiteraient des fonds conséquents que l'ONF ne pourrait pas prendre en charge. Donc, on fait appel à ces bénévoles pour aider, pour venir en supplément des ouvriers forestiers. Cet aspect financier, hein, les aides ne sont pas toujours suffisamment conséquentes pour intervenir sur ces milieux-là. Il y a aussi l'aspect humain, c'est-à-dire que ça nous fait sortir un petit peu du bois. On a des liens qui se créent donc avec des associations, on a des liens qui se créent avec des particuliers bénévoles. Il y a toute une dynamique qui se crée autour de ces liens qui ne sont pas naturels. Nous, agents forestiers, on travaille plutôt seul. Les liens ne sont pas faciles, il n'y a pas grand monde à croiser. Et souvent, les liens avec les associations de protection de la nature peuvent être ou ont été, dans certains coins, certaines zones plus conflictuelles. Là, ça permet de lier des partenariats, de mieux se comprendre et de travailler ensemble. Et de faire découvrir aussi certaines facettes de nos métiers et nos milieux.
Quel type de chantier vous êtes amené à proposer ?
Les deux principaux chantiers qu'on a proposés depuis 1997, c'est des réouvertures de milieux en faveur du tétralyre sur la réserve des hauts plateaux du Vercors, forêt domaniale du Vercors. Plus récemment, 2009, 2010, 2011... et 2013, 2012, on a juste fait un tout petit chantier d'entretien de mare. On a travaillé sur les forêts domaniales de l'Aupe et de la Roanne. Et là, on intervient pour remettre en état d'anciens milieux ouverts pour favoriser des territoires de chasse pour les chauves-souris, en lien avec la réserve naturelle de la grotte des Sadoux.
Quand ces chantiers se présentent, vous allez chercher des associations, vous lancez une sorte d'appel d'offres, on a besoin de gens qui veut vient. Comment ça se passe ?
Alors, c'est un partenariat qui s'est fait un petit peu... c'est une rencontre. J'avais initié des travaux sur la forêt domaniale du Vercors pour le tétralyre avec les ouvriers forestiers, donc des moyens limités. En personnel, hein, c'était deux ouvriers sur une petite surface, avec peu de finances en face. Et j'ai rencontré la présidente de l'époque de l'association des volontaires pour la nature, qui cherchait à faire des travaux, des chantiers en France. Donc voilà, le partenariat s'est lié comme ça. On a commencé tout doucement avec des petits chantiers d'une semaine avec 5-6 personnes. L'ONF propose le chantier, gère toute la partie abattage, tout ce qui est maniement des engins tels que tronçonneuses, débroussailleuses.
Professionnels, on va dire.
Voilà. Et on fait appel donc à l'association des volontaires pour la nature pour rechercher des bénévoles intéressés par le fait de vivre pendant une semaine, 15 jours. Maintenant, on propose aussi des week-ends pour travailler dans la nature et vivre aussi dans la nature. C'est un chantier, c'est un chantier séjour. On vit pendant 15 jours sous tente dans des conditions un petit peu précaires.
Rustiques,
voilà. À proximité du chantier pour limiter les déplacements. Et pour vivre aussi quelque chose d'un peu exceptionnel. Hein. C'est pas fréquent de pouvoir vivre pendant 10 jours, 15 jours... dans un milieu tel que la réserve des hauts plateaux du Vercors ou dans un fond de vallon au pied des Trois Becs.
Comment fait-on si on a envie comme ça d'aller se faire des chantiers là? Ça a motivé des gens, il faut joindre l'un ou l'autre
En général, c'est plutôt par nous qu'on passe, donc les gens se rendent sur notre site où on a notre site internet sur lequel on a listé toutes les actions possibles dans le monde, en France et en Rhône-Alpes, et tout est listé sur le site.
Allez, Laure Vunet, parlons un petit peu de la LPOdrome. Les auditeurs d'Erdiwa et de Radio Saint-Ferrol, je pense, commencent à connaître un petit peu, mais on peut rappeler vos missions. On parlait du tétralyre tout à l'heure, ça vous touche aussi?
Oui, alors en fait, donc on est une association départementale, on agit pour la connaissance des espèces, donc toute la faune sauvage, la protection des espèces et de leurs habitats. On fait aussi de la sensibilisation à la protection de la biodiversité. Il y a une équipe salariée qui est composée de 8 personnes qui travaillent sur différents groupes d'espèces. Et il y a aussi tout un réseau de bénévoles et d'administrateurs derrière qui se mobilisent et qui font aussi beaucoup de choses, comme par exemple l'existence de groupes locaux. Il y en existe un par exemple dans le Diwa, du côté de Nyons, du côté du Royan, à Montélimar aussi, qui permettent de sensibiliser les gens qui s'intéressent à la faune, à la découverte des oiseaux, des amphibiens, des sorties qui sont organisées au niveau bénévole. Et le lien qu'on a avec Volontaires pour la Nature et l'ONF ici, c'est qu'en fait, dans la vallée de la Roanne, là, les chantiers de réouverture des milieux qui ont eu lieu se situent sur un site où il y a une grotte avec une importante population de chauves-souris qui sont protégées à l'échelle européenne et nationale, et dont la LPO est animateur et conservateur avec l'ONF. On est co-animateur et co-conservateur d'un site Natura 2000 et d'une réserve naturelle régionale, où l'idée, c'est de suivre les populations au sein de la grotte et de préserver des habitats de qualité aux alentours, notamment via le maintien de milieux ouverts. C'est avec l'ONF qu'on s'était dit que ce serait intéressant justement de réouvrir ces milieux. Et l'ONF a fait le lien avec Volontaires pour la Nature, vu qu'ils avaient déjà des contacts via les chantiers qu'ils avaient faits sur les hauts plateaux. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé entre les trois structures et qui se poursuit aujourd'hui sur le site.
Quels sont vos besoins en bénévole à la LPO ?
Alors, il y a vraiment un aspect communication de notre passion. Par exemple, à travers les groupes locaux, où ça va être plus des bénévoles qui vont ouvrir, on va dire, leur connaissance et leur passion aux gens que ça intéresse. Après, on peut avoir des besoins sur des inventaires, chauves-souris, oiseaux, où il y a des bénévoles qui sont la bienvenue. Par exemple, le 7 février, on va mettre en place des filets le long d'une route sur un site où il y a beaucoup d'amphibiens qui se font écraser sur la route. Donc, on met en place des filets qui permettent de bloquer le passage aux amphibiens. Et tous les jours, il y a un bénévole ou un salarié qui va sur le site pour les récupérer et leur faire passer la route. Et là, par exemple, on a besoin de bénévoles. Donc il y a des opérations comme ça ponctuelles, on a besoin de gens. Et par exemple là sur le site des Sadou, donc 24 et 25 mai, donc c'est via Volontaires pour la Nature, on a ce chantier de réouverture des milieux, mais on va aussi rechercher des bénévoles pour nous aider à mettre en place des clôtures pour la mise en place d'un troupeau en fait qui vient sur ces secteurs qui ont été réouverts. Pour savoir ce que les gens peuvent faire avec nous, on a ce qu'on appelle le LP Info, qui est un trimestriel avec un calendrier, avec tout ce qu'on propose en termes de comptage, d'inventaire, de journées de sensibilisation, de chantier qu'on organise, qu'il faut contacter, et qui est soit un salarié, soit un bénévole de la LPO.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir toujours le même public ou est-ce qu'il se renouvelle ?
Chez nous, on a...
Marielle, Geoffroy.
On a quelques récidivistes qui vont venir d'une année sur l'autre sur des chantiers ou même au cours de la même saison vont participer à plusieurs chantiers. Mais généralement, ça se renouvelle d'une année sur l'autre. C'est vrai que c'est des chantiers qui peuvent être assez... engageant, quoi, effectivement, le fait d'être coupé tout pendant une semaine, c'est une expérience qu'on a plaisir à vivre pendant une année, mais peut-être que l'année suivante, on a envie de vivre autre chose. Et je pense notamment quand on a un public de salariés qui vient là dans le cadre de ces congés, a pas forcément tendance à renouveler chaque année l'expérience. Mais par contre, ils sont bien générateurs de bouche à oreille, où justement d'autres personnes vont venir grâce à ces personnes-là qui vont du coup jouer un peu le rôle d'ambassadeur autour d'eux.
Tu as oublié de dire aussi que tu faisais appel à un public international.
Oui, c'est vrai, on a aussi quelques Belges et quelques Suisses.
Des Hongrois, une Italienne, une Brésilienne, un Américain, des Anglais.
Encore.
Et vous présentez ça comme une sorte d'expérience que les gens se payeraient. Tiens, je vais me mettre 15 jours dans la nature et en même temps je travaille. Comment est-ce que vous vendez ces séjours ? Allez, vendez avec des guillemets.
Bah, y a vraiment plusieurs entrées. Les gens viennent vraiment chercher des choses différentes sur nos chantiers. Il y a vraiment un public très naturaliste qui va être là pour faire du terrain, rencontrer d'autres naturalistes. D'autres sont là vraiment dans le don de soi, de dire bah, j'ai envie de faire quelque chose pour les chauves-souris ou pour telle espèce. Donc voilà, j'offre de mon temps. Et il y a d'autres personnes qui vont vraiment venir pour la recherche de sens. Et puis d'autres vont être là pour l'expérience humaine, de se dire j'ai envie de camper dans les bois pendant une semaine avec des inconnus, rencontrer des gens que je connais pas, mais qui partagent a priori les mêmes centres d'intérêt que moi, à savoir la nature, l'écologie, etc. Et d'autres qui viennent totalement en découverte, de se dire bah, j'ai entendu ça dans une émission de radio, ou on m'a parlé de ça, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai trouvé ça marrant et j'ai envie de voir en vrai. Donc il y a vraiment diverses motivations pour les gens qui viennent chez nous.
Et Laure, pour la LPO, est-ce que vous avez toujours les mêmes bénévoles ou pas ? Même question.
On va dire à peu près 40 bénévoles actifs qui sont quand même présents tous les ans, notamment au niveau de nos administrateurs, hein, qui sont quand même aussi très actifs. On a des bénévoles qui nous suivent parce que... ils sont naturalistes. Être naturaliste, c'est en fait c'est une passion et puis c'est un savoir qu'on peut acquérir au fur et à mesure des années, des observations. Il faut faire du terrain avec des gens qui ont ces connaissances-là aussi, donc qui sont passionnés et qui viennent avec nous filer un coup de main régulièrement.
Par exemple, pour le comptage, il faut quand même être un peu affûté.
Alors, ça dépend, en fait, parce qu'on organise, par exemple, des week-ends de prospection hivernale, par exemple, pour les chauves-souris au sein des cavités qu'on suit sur le département. Il y a des bénévoles, on sait, qui savent reconnaître les espèces. Ils sont déjà venus plusieurs fois avec nous. Ils savent comment fonctionne le comptage. Donc, on peut leur dire, tu vas compter cette partie de grotte. Et il y a des personnes qui viennent découvrir ce que c'est. Et du coup, on va leur expliquer. Et puis, ils vont y participer. Et si ça leur plaît, ils reviennent les années suivantes. Et puis, il y a des gens qui viennent plus pour la découverte. Et puis, d'autres parce qu'à un moment, ils vont se dire, ouais, c'est hyper intéressant. Et puis, qu'ils vont avoir envie de poursuivre et qu'ils vont être de plus en plus formés par rapport à ça. On organise ce qu'on appelle des radiopistages. Donc, pendant 10 jours, on équipe des chauves-souris avec les émetteurs. Et puis, la nuit, on les suit pour savoir où est-ce qu'elles vont chasser et où est-ce qu'elles vont giter. Donc là, c'est de l'investissement bénévole assez important aussi parce qu'en fait, on est en action toute la nuit à courir après des chauves-souris. En plus, souvent, elles se font une petite sieste vers 3h du matin, alors tout le monde est fatigué, donc il faut quand même tenir. C'est aussi une aventure humaine.
Est-ce que vous pouvez décrire aussi à la fois le bénéfice, mais aussi le poids que ça a de devenir pédagogue? Enfin, tout d'un coup, on apprend son métier à des gens, on partage une passion, ce genre de choses. Est-ce que c'est très prenant, Philippe Mesda?
Non, c'est une belle efficacité. Et là, au lieu d'avoir des chantiers où on a deux ou trois ouvriers forestiers dont le travail se voit peu, puisque c'est deux ou trois personnes, on passe à une quinzaine de personnes qui sont actives. On voit tout de suite l'efficacité du chantier. Ça, il n'y a pas de problème. C'est visuel. Là, ça saute aux yeux. Après, c'est assez gourmand en temps parce que derrière, il y a toute l'intendance, toute l'organisation. Et ça s'est passé toutes ces années dans des milieux qui sont souvent difficiles d'accès. Le ravitaillement n'est pas facile, l'eau n'est pas toujours disponible, il faut la transporter. Il y a quand même, au niveau de l'intendance, il y a quand même quelque chose d'assez lourd. Et ces 15 jours d'immersion dans un milieu naturel qui peut être un peu hostile, au plateau du Vercors, même si les chantiers se déroulent fin août, ça veut dire qu'il y a du gel, il y a de la neige. Coucher sous tente dans ces conditions-là, ne avoir que des douches solaires quand il fait mauvais, ça manque d'efficacité. Il n'y a pas de frigo, c'est au niveau du contact, de l'alimentation, de la manière de vivre dans un groupe, dans des conditions rustiques comme celle-là. Ça amène évidemment des choses étonnantes, des liens étonnants, et voilà. Et après, l'aspect transmission, je pense que si je n'avais pas envie de transmettre, je ne ferais pas ce genre de chantier-là, quoi. C'est plutôt un plus d'avoir plein d'oreilles qui sont là à l'écoute. À l'écoute et puis qui partagent, parce que certains ont fait des études dans le domaine de l'environnement et puis d'autres ont des curiosités et puis il y a tout un tas de questions qui se posent. Et pourquoi on intervient dans la nature? Pourquoi on ne laisse pas la nature faire? C'est des, c'est des sujets sur lesquels on peut passer un paquet de soirées au coin du feu. Hein.
Alors si vous êtes rassemblés tous les trois dans ce studio, c'est parce que vous avez fini d'intervenir dans le cadre des rencontres écologie au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous y avez fait?
L'idée cette année, c'était que les rencontres de l'écologie, donc il y a toujours des interventions de manière très large sur la notion d'écologie qui n'est pas entendue ici à son sens strict, on va dire. Mais l'idée cette année, c'était vraiment de l'ouvrir sur la thématique de la biodiversité. Et donc ce matin, on a fait une intervention avec aussi les éleveurs qui interviennent sur le site des Sadou pour présenter quelle est la biodiversité, quelles sont ces chauves-souris protégées qui sont présentes sur le territoire, donc près d'ici dans la vallée de la Roanne, qu'est-ce qui existe pour les protéger, pour les étudier et quels partenariats ont été mis en place au niveau local avec des associations, des établissements type l'ONF et des éleveurs pour préserver des habitats et des espèces. Donc c'est ce qui a été présenté et il y a eu des échanges à ce sujet. Ça a permis du coup de parler d'un quelque chose de local pour élargir vers l'éco-volontariat, partir à l'étranger pour filer un coup de main à des assos qui ont les mêmes démarches dans des pays tels que le Pérou par exemple. Et il y a eu une intervention plus ciblée sur les chauves-souris du Diwa. Quelles espèces sont présentes, dans quel milieu, quel type d'études on peut faire, comment on étudie les chauves-souris, comment les gens peuvent filer un coup de main aussi pour les étudier.
Et ce sera le cadre d'une prochaine biotope d'ailleurs.
Voilà.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Avec vous, Philippe Mesda de l'ONF et Marielle Geoffroy pour Volontaires pour la Nature. Nous allons décrire le chantier Tétralyre.
En 1996, je suis arrivé sur mon poste en forêt domaniale du Vercors. Il y avait une étude qui était en cours sur l'évolution des paysages en lien avec les populations de Tétralyre. Principalement une comparaison de photos aériennes des années 1948 avec des missions de photos aériennes des années 1992-93, corrélées avec des études sur le terrain. La végétation avait bien regagné certaines zones sur lesquelles le tétra avait toutes ses habitudes, en partenariat avec la réserve des hauts plateaux, sous l'égide du comité scientifique et l'aide de Yann Magnani de l'ONCFS et de l'Observatoire des Galliformes de montagne. On a mis en place ces chantiers tétra, qui sont en fait des chantiers de réouverture du milieu en faveur du tétralyre. Le fait que ça devienne des chantiers, c'est moi qui l'ai porté. Je pense qu'au début, il n'y avait guère que l'étude qui était envisagée.
Décrivez-nous l'action qui a été menée.
Réouvrir le milieu à l'aide de tronçonneuses et de débroussailleuses pour créer des clairières, des effets de lisière, réouvrir principalement des zones où on supposait que la végétation herbacée qui allait reprendre sa place allait mesurer au moins 40, 50, 60 cm. Parce que c'est la hauteur d'herbe dont les tétras femelles ont besoin pour vivre les premiers temps avec leurs jeunes, en étant protégées du regard des rapaces et d'autres prédateurs. Donc une fois zonées ces parcelles, on est intervenu à la tronçonneuse pour l'abattage et ensuite il fallait débarrasser ces zones ouvertes des branches et des troncs. C'est pour cette opération-là qu'on a fait appel aux bénévoles. On est intervenu aussi avec des entreprises de débardage à cheval. Ces chantiers permettait de travailler de l'ordre de 2,5 hectares, 3 hectares sur les 15 jours que durait le séjour. Les bénévoles, pour une journée de travail qu'ils nous offrent, bénéficient d'une journée d'intervention de naturalistes, du conservateur de la réserve ou de spécialistes de telle ou telle espèce, faune, flore, parfois des conteurs ou conteuses passées. On a fait des soirées astronomie, on est allé voir les vautours dans les volières, on a fait de l'ornitho, de la botanique, de l'archéologie, de la géologie. Et donc c'est un échange 50-50.
Combien coûte ce type d'opération ?
Alors là, je n'ai pas de chiffre précis à vous donner, mais c'est de l'ordre de 220 heures, 240 heures d'emploi d'ouvriers forestiers. 5 jours de bénévolat multipliés par 15 à 17 personnes. Et puis, en général, il y avait autour de 1500 à 2000 euros de débardage par cheval.
C'est quand même une sacrée économie, ouais, qui est faite.
C'est une sacrée économie qui permet d'intervenir avec les aides de l'État ou de l'Europe sur des surfaces beaucoup plus grandes en intervenant avec des bénévoles que sans les bénévoles.
Un petit bilan, réussite, échec, allez.
Alors sur le tétralyre, c'est difficile de parler de réussite. Parce que le comptage du tétralyre est quand même quelque chose d'assez aléatoire. Il avait été envisagé de faire des comptages avant les travaux avec des chiens d'arrêt, donc des chiens qui marquent l'arrêt devant les nichés ou devant les individus, et de refaire le même type de comptage après les travaux. Ça m'a paru assez aléatoire sur des surfaces aussi faibles et le dérangement n'est pas anodin. Donc on s'est contenté des comptages habituels et de voir comment la population évoluait globalement sur la réserve. Les seules choses positives, mais on ne sait jamais si c'est lié à notre intervention ou pas, c'est qu'il m'est arrivé de faire des rencontres de nichés ou d'individus, de femelles pas plus particulièrement, mais c'est vrai que c'est plus porteur de reproduction, sur les zones que nous avions travaillées.
On ne peut pas bien mesurer si ce travail a été bon ou pas.
Non,
en tout cas, il a été fait.
On n'a pas les moyens de mesurer ça de manière sur des si petites surfaces, de manière intéressante. Le tétralyre a un domaine vital qui est important et les zones que nous avons travaillées sont trop faibles pour savoir si vraiment l'impact est important. Par contre, ce sont des chantiers que nous menons depuis 1997 avec parfois 2 chantiers par an. Les zones travaillées commencent à représenter une surface intéressante. Par contre, bon, nous le faisons quand même avec l'aval de l'Observatoire des Galliformes de montagne, une association qui est spécialisée dans ce type de suivi et qui le préconise et qui a des données plus précises, notamment sur des zones en Savoie et Haute-Savoie.
Et puis j'ai dit que cette opération était terminée, mais en fait pas du tout.
Non, la dernière opération concernant le tétralyre était en 2012. Sur les chauves-souris,
c'est le nouveau
projet. Identique. Ouais. C'est un chantier sur lequel on a travaillé pendant 3 ans. Nous ne sommes pas là pour travailler sur toutes les surfaces disponibles.
Et puis on va terminer avec Marielle Geoffroy qui n'a pas parlé dans cette capsule pour redonner l'ensemble des contacts pour participer à ces chantiers.
Alors, pour participer à nos chantiers, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.apadeloup.org et on présente toutes les missions qu'on propose en France ou à l'étranger avec toutes les données techniques de temps, de durée, de disponibilité. Voilà, on trouve tout sur le site.
Et un petit numéro de téléphone.
Ah oui.
Eh oui, parce que c'est possible encore.
Oui, c'est le 04 75 46 98.
Et vous êtes basé où ?
Pour l'instant, on est à Dieulefi, mais à partir de mi-février, là, on sera à Romans-sur-Isère.
Capsule. Eh bien, merci Marielle Geoffroy, merci Philippe Mesda, merci Laure Vinet pour la LPO Drôme, l'ONF et Volontaires pour la Nature. À bientôt. Peut-être.
Merci.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.